bonjour à tous ceux qui sont là, mais aussi à tous ceux qui nous suivent de loin. Voilà, on est physiquement loin, mais on est proche de cœur, bien sûr. Alors, nous sommes très reconnaissants de pouvoir célébrer ensemble. Voilà. Pour nous, ça fait un immense plaisir de revenir ici après une longue absence. On a remarqué que c'est vraiment depuis longtemps qu'on est absent parce que quand nous étions là la dernière fois, il y avait un grand trou à côté. Maintenant, c'est un immeuble qui est pratiquement terminé. Alors donc, ça fait un petit bout de temps. Voilà, notre absence est aussi due à notre implication dans le projet d'implantation à Douven, d'implantation d'une église. Et là, nous nous rencontrons en quatre groupes, trois groupes de maisons, un groupe de découverte, et même, je pense, en ce moment même ou encore au cours de cette journée, ils seront tous réunis d'une façon ou d'une autre, la plupart, sur un écran. Voilà, et on essaie de se rencontrer tous les dimanches, et si possible, une fois par mois, tous ensemble, ou même un peu plus maintenant, parce que, voilà, on est obligé de nous brancher sur Zoom, et voilà, là, on est à peu près une vingtaine d'écrans. On compte par écran maintenant, voilà, donc, qui sont réunis. Et c'est super quand même de pouvoir se partager et s'encourager grâce à la technique d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'aimerais, comme c'est le premier avant, comme tu as dit Sophie, j'aimerais donc nous lire un texte où Paul parle justement de cet avènement, de la venue de Jésus et du comment et du pourquoi de sa venue dans ce monde. Et ce texte se trouve dans la lettre de Paul aux Galates, au chapitre 4. Alors la Galatie, à l'époque, c'est une région au nord de la Turquie d'aujourd'hui, voilà, où Paul avait des amis, il avait voyagé. Bon, quelques-uns disent aussi, non, c'est plutôt au sud, parce qu'il avait aussi une province administrative des Romains qui s'appelait la Galatie, qui était au sud de la Turquie, peu importe où c'était. C'est qu'il a écrit donc à ses amis, à ses églises, probablement c'était plusieurs églises, et c'est une sorte de lettre circulaire qu'il avait écrit. Et donc, il leur a écrit parce qu'il avait des faux prédicateurs qui sont venus, qui ont enseigné un peu n'importe quoi, et surtout, c'était des gens d'origine juive, et donc ils ont insisté qu'il faut encore accomplir la loi. Même étant chrétien, il faut encore accomplir la loi. Et donc Paul s'oppose un peu à cette idée, et justement il se prend un peu à Pierre aussi dans les premiers chapitres. Mais donc, en plein milieu de cette lettre, il parle justement de cette venue de Jésus et pourquoi qu'il est venu. Et je vous invite à lire ces quelques versets dans le chapitre 4 et le verset 4 jusqu'à 7. Et je le lis selon la traduction ou la nouvelle édition de Genève. Voilà donc, verset 4. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes ses fils, et parce que vous êtes fils, pardon, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ça semble peut-être un peu compliqué à première vue, mais nous allons prendre un paragraphe après l'autre. Alors, Paul répond à la question, mais quand est-ce que Jésus est venu? Et il dit, lorsque les temps ont été accomplis. Alors, cette expression est un peu mystérieuse, voilà, parce qu'il ne donne pas de date, mais il dit, voilà, Dieu, il a bien réfléchi. Il a bien décidé que c'était vraiment en ce moment-là, donc il y a 2000 ans à peu près, un peu plus même, que Jésus, le Messie, devait naître pour venir dans ce monde pour apporter l'Évangile et pour surtout accomplir ce qu'il devait accomplir. On en parlera un peu plus tard. Mais en général, on dit, oui, c'est une bonne période quand même pour le Messie pour venir, pour que l'Évangile puisse se répandre, parce qu'avec l'Empire romain, c'était facile à voyager. Il avait les voies maritimes, mais aussi les voies sur terre qui étaient bien pour que l'Évangile puisse aussi se répandre plus tard dans le monde entier, qui était surtout en ce moment-là, bien sûr, le monde autour de la Méditerranée. Donc, ce temps était favorable au partage de l'Évangile, et bon, il avait sans doute encore d'autres raisons aussi que nous ne connaissons pas. Mais donc, ce qui veut dire, Dieu, il a choisi ce moment-là, et pas un autre, mais ce moment-là, pour envoyer Jésus, son Fils, le Messie dans ce monde, pour nous apporter l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile. Et Jésus, quand il a commencé son ministère, à l'âge de 30 ans à peu près, il avait dit ceci dans l'Évangile de Marc, chapitre 1er, le verset 14 et 15. Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu, et il disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. » Donc nous retrouvons un peu cette même expression, le temps est accompli. Donc vraiment ce moment qui était choisi par Dieu pour nous annoncer l'Évangile. Et nous tombons au cours de la lecture des Évangiles plusieurs fois sur des expressions qui disaient, voilà, son heure n'était pas encore venue, en parlant de Jésus. Par exemple, quand il voulait le repousser par-dessus les falaises, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec son message, mais Jésus est juste parti, parce que son heure n'était pas encore venue. Et les chefs religieux, ils ont envoyé des soldats du temple pour arrêter Jésus, un peu dans Jean 7, mais son heure n'était pas encore venue, ils ne pouvaient pas l'arrêter. Et seulement plus tard, nous lisons, chapitre 13, que son heure était venue, et c'est là qu'il a commencé, c'est lui-même qui a enclenché donc cette période de la passion en lavant les pieds aux disciples et en les enseignant toutes les choses que nous lisons entre Jean 13 et Jean 18, tout ce qu'il a enseigné encore à ses disciples et aussi dans la prière du chapitre 17, bien sûr, on lit aussi son heure était venue. Voilà. Donc, on voit par ces expressions que Dieu, il sait ce qu'il fait, il contrôle ce qui se passe. Ce n'est pas par hasard qu'il y a des choses qui se passent, même aujourd'hui. Même quand des adorateurs grecs sont venus, probablement des prosélytes qui sont venus à la fête à Jérusalem, au chapitre 17 de l'évangile de Jean aussi, non, chapitre 12, pardon, ils ont demandé aux disciples, nous voudrons bien voir Jésus. Et Jésus leur a répondu, l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. Donc ça y est, maintenant je dois prendre la route vers la passion, vers la croix, et donc cette heure est venue. Dans notre groupe de maison, nous avons étudié une partie du livre de Daniel. Et nous étions tellement impressionnés par le fait que Daniel, il a annoncé des choses d'une façon précise, avec une précision impressionnante, qui se sont effectivement accomplies par la suite, par exemple entre le retour de la captivité babylonienne jusqu'à la venue de Jésus. Il avait annoncé plein de choses dans ce chapitre prophétique de son livre. Et les choses se sont passées ainsi. Et vraiment avec une précision impressionnante. Il y a bien sûr encore beaucoup d'autres choses que Daniel avait annoncées qui ne se sont pas encore accomplies. Mais, comme les premières choses se sont accomplies, il n'y a pas de doute que ce qui est encore, même dans l'avenir de nous-mêmes, que même ces choses-là vont s'accomplir sans tarder ou au moment voulu par Dieu. Donc, lorsque les temps ont été accomplis, ça veut dire que Dieu, vraiment, il contrôle ce qui se passe, il voit ce qui se passe et il prend soin de ses enfants. Et donc, même aujourd'hui, ce qui nous arrive aujourd'hui, dans cette année 2020, qui est une année un peu compliquée, n'est-ce pas ? Dieu le sait. Dieu le sait, il savait que le moment était venu pour que ce voile du Covid se mette sur le monde entier presque, au moins la partie nord du monde. Et donc, ce n'est pas par hasard que ce qui nous arrive se passe maintenant. Dieu, il le sait. Tout est sous son contrôle et il sait ce qu'il fait. Il savait aussi que, par exemple, la technique sera prête pour qu'on puisse diffuser les messages et les cultes un peu partout. Hein, donc, pour que ceux qui sont à la maison puissent nous suivre maintenant. Qu'il y a dans chaque église quelques techniciens qui peuvent prendre soin de ces transmissions, des enregistrements, des transmissions, selon les églises, et que beaucoup de monde, presque tous, puissent suivre donc ces cultes par Internet. N'est-ce pas merveilleux ? Même si on préfère être là, ensemble, bien sûr, dans une salle. Mais imaginons que ce qui nous arrive aujourd'hui serait arrivé il y a 20 ou 30 ans. Alors, je ne sais pas comment on se serait organisé pour nous rencontrer, pour célébrer le culte. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui nous permet, par les moyens techniques, d'encourager les uns les autres, même ceux qui ne peuvent pas venir. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Le temps est favorable. Est toujours favorable. Nous sommes encore dans une année de grâce, malgré tout ce qui nous arrive. Et ça, c'est vraiment super. Mais bon, voilà, je dévie un peu, parce qu'on voulait parler de Noël, de l'arrivée de Noël. Parce que, donc, dans ce chapitre 4 de Galates, nous lisons « Dieu a envoyé son Fils ». Né d'une femme. Ah oui, bien évidemment, né d'une femme, comme nous tous. Mais non, pour Jésus, ce n'était pas si évident. Lui qui est le créateur de toutes choses, donc de toute créature aussi, donc aussi de toute personne, lui qui est au-dessus de tout, on l'appelle bien le créateur, ou bien le co-créateur, si vous voulez. Donc, lui, il a accepté de naître dans ce monde par une de ses créatures. Ça, c'est assez exceptionnel, n'est-ce pas ? Alors, par un de nos petits-fils, nous avons son beau-fils, voilà, je cherche le mot, son beau-fils, il est taïwanais. Et un jour, il est venu nous rendre visite. Peut-être j'ai déjà raconté ça une fois. Il est venu nous rendre visite et c'était juste autour de Noël. Donc, on a essayé de lui expliquer la fête de Noël parce qu'il n'y connaissait rien. Il n'avait pas de contact avec d'autres chrétiens. Et donc, on était avec lui dans un culte de Noël, où ils ont raconté l'histoire de Noël, je crois qu'il avait les enfants aussi, je ne sais plus. Mais, de toute façon, à la fin, on a essayé de discuter avec lui. Il nous a posé la question, mais si Jésus était vraiment le roi des rois, comme on avait dit ça dans cette fête de Noël, pourquoi il n'est pas venu comme un roi dans un palais avec force et puissance et qu'il a tout balayé, ce qui s'opposait à lui ? Pourquoi il est venu comme un bébé, en toute humilité, dans une crèche, pauvre, et même qu'on l'a persécuté, dès le moment de sa naissance. Alors qu'il était mal reçu, ça ne peut pas être le roi des rois. Donc c'était son raisonnement. Et donc on a compris, en quelque sorte, il a raison. C'est étonnant que Jésus soit venu, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, dans cette crèche, né d'une femme, dans la pauvreté, en toute humilité. Mais non, il a choisi. Comme Dieu avait choisi le moment de sa venue, il a choisi de venir à notre secours en devenant comme nous. Je lis ces versets dans Philippiens 2, versets 6 et 7, qui sont bien connus. Jésus-Christ, qui est de condition divine, il y a de condition divine, il faut nous imaginer ça, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. N'est-ce pas étonnant? Il a choisi de venir naître d'une femme, de venir en toute humilité dans la pauvreté pour, en quelque sorte, venir nous sauver, pour nous aider dans notre vie, dans ce que nous vivons. Et c'est encore valable aujourd'hui. Ensuite, nous continuons la lecture dans Galates 4 et nous dit ceci. Dieu a envoyé son fils né d'une femme et encore né sous la loi. Né sous la loi. Alors lui, on peut faire la même réflexion, lui qui est donc à l'origine de la loi. Voilà, pensons, 10 commandements, voilà. C'est Dieu qui les a donnés, mais Jésus qui est Dieu, donc il a certainement, disons, collaboré à établir ces lois. Et donc, il les a donnés, il les a rédigés, il les a donnés au peuple d'Israël tout d'abord. Et n'aura pas eu besoin de venir se soumettre sous la loi qu'il a créée lui-même. Au contraire, lui qui est parfait et sans péché, il aurait pu venir juste, comme notre beau-fils l'avait dit, en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs, en pompe, pour annoncer sa présence. Mais non, il a encore choisi de se soumettre à sa propre loi. Dès sa naissance, et nous voyons que, dès le début de sa vie, il a été soumis à la loi. Ses parents ont accompli les rites de purification après sa naissance, par exemple. Ils ont circoncis le garçon, ils ont présenté le bébé de huit jours au temple. À 12 ans, il est rentré dans le temple pour le rite de la majorité religieuse. Et encore, nous lisons régulièrement que Jésus a participé aux fêtes juives dans le temple et dans les synagogues. Donc, il s'est soumis à cette loi et aussi en plus encore aux coutumes du peuple juif. Et à un certain moment, au début de son ministère, Jésus a dit dans Matthieu 5, 17 à 18, « Je suis venu pour accomplir la loi. » Non pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Et voilà, pour résumer l'histoire, nous savons que Jésus a dit sur la croix, qu'il s'est écrié, « Tout est accompli. » Tout est accompli, Jean 19, verset 30. Donc, il a tout accompli. Il a accompli la loi, il a accompli les exigences de la loi qui demandaient que nous soyons condamnés à cause de notre péché. Mais lui, il a pris cela en charge. Et donc, il a accompli cette loi. Et nous lisons encore la suite de Philippiens 2, le verset 8. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort et même la mort sur la croix. Donc, ce que nous avons déjà lu un peu plus haut. Donc, on peut résumer, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, Jésus ou Dieu, ou Jésus, voilà, on peut les confondre, n'est-ce pas? Jésus a choisi de s'identifier à 100% avec chacun de nous. Il est devenu comme nous, il s'est soumis sous la loi comme nous devons le faire, et donc il est né comme un simple homme et il s'est volontairement soumis aux mêmes contraintes, aux mêmes difficultés, aux mêmes conditions comme nous. Et ça, c'est vraiment adorable, n'est-ce pas? Donc Jésus, il nous aime tellement. Et maintenant, nous lisons encore dans ce même texte. Donc, Jésus est venu, il a été envoyé, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Toujours dans Galates 4 et le verset 5. Il est venu pourquoi? Parce qu'il voulait nous racheter. Il voulait donc son peuple qui était égaré, racheter pour qu'il revienne dans cette communion, dans cette relation avec Dieu. Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Parce que la loi, comme j'ai dit tout à l'heure, la loi nous condamne en quelque sorte parce que elle nous dit, tu n'es pas aussi parfait que tu devrais être, que tu devrais l'être, et tu es un pécheur, donc tu mérites un jugement. C'est ça la condamnation de la loi. Mais dans sa compassion et son amour, Dieu a envoyé Jésus-Christ, justement pour venir à notre secours. Et Jésus, il est venu pour payer cette dette que nous avons envers Dieu en mourant sur la croix. Il est venu pour prendre en charge le jugement de nous tous. Il a payé le prix. Et donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu ne nous laisse pas nous débrouiller, condamnés sous la loi, mais il nous envoie son serviteur, Jésus. Alors, on parle du serviteur selon Ésaïe dans notre projet de Douvaine. Et donc, il est venu pour payer notre prix, pour nous prendre en charge et pour nous racheter. Et par la mort, par sa mort sur la croix, Jésus t'a donc racheté, toi, moi, nous tous. Et grâce à lui, nous pouvons être pardonnés. Et nous pouvons être purifiés de tout péché, selon le témoignage de la bonne nouvelle de l'Évangile que nous lisons dans notre Bible. Donc, en quelque sorte, on peut dire qu'il a plongé sous la loi pour nous sortir de là, de cette condamnation, de cette loi qui pèse sur nous. Il a plongé là-dessous pour nous sortir de là et pour venir à notre secours. Qui ne connaît pas Jean 3, 16? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset merveilleux, n'est-ce pas? Que vous connaissez sans doute par cœur, ou quelques-uns, sans doute. Maintenant, ce qui est bien avec ce verset, on peut aussi mettre son nom. Dieu a tant aimé le monde, alors, comme moi je fais partie du monde, je peux mettre mon nom. Donc, on va essayer une fois, qui veut mettre son... Attends. Je connais Michel, alors je vais mettre à ton nom. Donc, Dieu a tant aimé Michel qu'il a donné son Fils unique afin que Michel, qui croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas merveilleux? Voilà. Donc, Dieu, quand le temps était accompli, il a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Pourquoi? Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Donc, et il continue encore pour nous adopter, afin que nous recevions l'adoption. Il dit dans ce même verset 5, afin que nous recevions l'adoption. Donc, ce qui veut dire qu'il veut faire de nous des fils et des filles de sa famille, de la famille de Dieu. Il souhaite faire de nous ses enfants, des membres de sa famille. Alors encore un très grand encouragement, une très grande joie. Et je pense que vous tous, vous connaissez, ou quelques-uns connaissent certainement l'histoire de Nicodème, qui est venu voir Jésus à un certain moment, la nuit, parce que c'est un chef religieux, et il a demandé, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a demandé à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Et Jésus lui dit, il faut naître, renaître d'en haut, ou bien il faut naître de nouveau. Et donc, cela a changé sa vie, n'est-ce pas? Parce qu'après, nous le voyons, il est encore un peu caché quand même, mais on le voit quand même défendre la cause de Jésus, et on le voit aussi l'enterrement, ou disons la mise en tombeau de Jésus, quand il voulait lui rendre ce service encore d'amour. Voilà. Ça a changé sa vie, ce n'était plus le même homme, mais je crois que tous ceux qui ont compris que Jésus est venu pour nous sauver, pour nous sortir de cette situation et pour nous faire grâce, pour nous pardonner, pour nous purifier, ils reconnaissent que leur vie a changé. Comme il le dit aussi par la suite, mais nous allons lire tout de suite encore la suite dans le verset 6 et le verset 7. Parce qu'il dit, voilà, et afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, et ensuite il dit aussi, parce qu'il veut, afin que nous recevions l'adoption, et parce que vous êtes les fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie, Abba Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc, il veut nous faire membres de sa famille. Il veut que nous puissions renaître dans cette famille de Dieu par notre foi, par notre engagement personnel. Et donc, il veut qu'on puisse appeler Dieu Papa, Père, Abba, Père. N'est-ce pas merveilleux? Et du coup, nous pouvons prier cette prière que nous prions peut-être de temps en autre, notre Père qui est aux cieux. Et ça donne toute une autre signification quand nous avons compris que Jésus est venu pour nous faire membres de la famille de Dieu. Et notre Père devient Abba Père, Papa Père, donc mon Père personnel, par ma foi. Et il dit après, tu n'es plus esclave, mais tu es fils ou bien fille. Tu n'es plus esclave de la loi, de cette loi qui te condamne. Mais non, tu es gracié, tu es libéré, tu es enlevé, ce poids a été enlevé de tes épaules. Tu es libéré, tu es pardonné. Maintenant, tu es enfant de Dieu. Et il continue encore. Et si tu es enfant de Dieu, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alors, il faut vous imaginer une fois. C'est déjà bien d'être héritier de parents riches, n'est-ce pas? Mais être héritier de Dieu. Alors, je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble, mais ça doit être énorme, être hérité de Dieu. Et Paul écrit encore aux Romains, vous serez co-héritier de Jésus-Christ. Dans Romains 8 et le verset 14 jusqu'à 17, que je vais quand même lire encore, parce que ça, c'est des versets incroyables. Non, ils sont croyables quand même. Alors, ils ne sont pas incroyables, ils sont croyables, voilà. Voilà. Donc, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage, voilà, on revient sur le même sujet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père », encore la même expression. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Donc l'héritage, ce n'est pas seulement d'énormes richesses et d'énormes plaisirs, mais c'est aussi une partie de la souffrance de Christ que nous allons vivre d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc on ne va pas s'étendre sur ce sujet parce que c'est encore une autre prédication. Mais voilà, donc, si nous pouvons résumer avec la question « Mais pourquoi Jésus est-il venu dans ce monde ?» C'est très clairement pour que nous puissions devenir des enfants de sa famille, pour qu'il nous rachète dans la famille de Dieu, pour que nous puissions être des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, pour que nous puissions crier, ou simplement dire, ou prier, « Abba Père, tu es mon Père, et Jésus, tu es mon frère, mon grand frère, bien sûr, mais tu es mon frère. » Et parce qu'il veut partager tous ses biens avec nous, on est héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Et encore, nous lisons ici, le lien qui nous unit dans tout cela, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Donc, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ça, c'est le lien qui nous unit d'une façon qui nous unit avec Dieu, le Père, avec Jésus, donc notre grand frère, si nous voulons, et qui nous unit aussi les uns avec les autres dans la famille de Dieu. Donc ça, c'est vraiment un merveilleux message de Noël. C'est pour cela que Jésus est venu dans ce monde. Ce n'est pas pour faire une grande fête, pour faire beaucoup de cadeaux, pour beaucoup manger. Bon, peut-être cette année, ça va être un peu plus compliqué. Mais voilà, on saura toujours faire la fête quand même. Mais la fête de Noël, selon la Bible, c'est une fête de joie parce que Dieu fait de nous ses enfants. Parce qu'il veut nous introduire dans la famille de Dieu, il veut nous inclure dans la famille de Dieu. C'est pour ça qu'il est allé sur la croix, qu'il a pris en charge notre jugement, notre punition. Et c'est pour cela qu'il veut nous faire naître dans la famille de Dieu. Maintenant, tout cela ne nous sert à rien, si nous le savons simplement. Mais encore, il faut que ça descende dans notre cœur. Il faut que chacun de nous s'approche de Dieu par lui-même et qu'il demande Dieu ou le Seigneur Jésus de venir dans sa vie, faire le ménage dans sa vie, de pardonner, de purifier sa vie, reconnaître que Jésus a tout porté sur la croix pour que nous puissions justement chacun individuellement vivre cette nouvelle naissance et naître dans cette famille de Dieu. Et lui, Jésus, il se fera le plus grand plaisir de pardonner, de purifier chacun de nous de tout péché. Je sais que quelques-uns, ou même presque tous, ont fait ce pas de foi, cet engagement, qui ont ouvert leur cœur à Jésus. Alors, que chacun puisse encore, s'il n'a pas encore fait, ouvrir son cœur pour faire partie de cette famille de Dieu. Et si vous ne savez pas trop comment faire, vous pouvez toujours demander quelqu'un de cette église, quelqu'un de confiance, pour donc demander conseil, peut-être aussi pour prier ensemble et pour mettre tout devant Dieu, tout ce qui peut déranger, ce qui peut encore empêcher, tout mettre devant Dieu dans la prière. Je conclue avec deux versets de Éphésiens chapitre 1er. Dieu nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé Jésus. Amen. Je vous invite à prier. Notre Père Céleste, j'aimerais te louer pour Noël, Seigneur, parce que tu as décidé, quand le temps était accompli, d'envoyer ton Fils, le Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus, tu étais d'accord de t'abaisser, de devenir comme nous, et même pire que nous, comme un criminel sur la croix, simplement parce que tu voulais nous racheter, tu voulais nous prendre en charge, tu voulais prendre en charge nos fautes, notre péché. Et tu voulais, Seigneur, nous faire naître dans ta famille. Et Seigneur, nous te remercions pour cette grande famille de Dieu qui couvre toute la terre. Seigneur, c'est vrai, quand on voyage, on va souvent dans une église et on est tout de suite à l'aise dans ta famille. Parce que c'est ta famille, Seigneur, et qu'il y a ton esprit qui est ce lien qui nous lie les uns avec les autres et avec toi. Seigneur, nous te louons, Seigneur, pour cette bonne nouvelle de l'Évangile que tu as, oui, que tu as introduit dans ce monde, ce jour de Noël, et que nous pouvons maintenant, oui, dans 4 semaines, fêter Noël et nous souvenir de cette bonne nouvelle, de cette venue dans ce monde, Seigneur Jésus, que tu es venu pour nous sauver, nous qui étions sous la loi, condamné sous la loi, mais toi qui as pris cette condamnation. Et nous voulons toujours te louer de nouveau et encore de nouveau pour ce sacrifice que tu as accompli pour nous. Nous voulons te dire merci de tout notre cœur pour ce salut que tu nous as acquis sur la croix, que tu as tout accompli pour chacun de nous et que nous pouvons librement venir dans ta présence pour recevoir ce cadeau de Noël. Merci Seigneur, de tout notre cœur, nous te louons et nous t'adorons. Et nous bénissons chacun ici présent. Et nous prions que chacun puisse être encouragé par cette bonne nouvelle et que chacun encore qui n'a pas encore ouvert son cœur puisse le faire aujourd'hui même. Merci Seigneur. Amen.